Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec dans un instant le journal de Christophe Lamarre, toute l'info décryptée par la rédaction d'Europe 1. Et puis à partir de 19h20, ce sera votre débat du Club des Idées. On va bientôt trouver dans les rayons des supermarchés beaucoup plus de produits en vrac, y compris des produits de marque. Les grandes surfaces vont devoir en proposer au moins 20% d'ici 2030. C'est ce que prévoit en effet un article de la loi Climat. Et c'est une tendance qui correspond à une prise de conscience des consommateurs face aux enjeux environnementaux et qui bouscule la grande distribution. C'est presque un changement de métier pour elle. Ce sera donc le thème de notre grand débat à partir de 19h20. Juste avant, nous accueillerons la philosophe Julia de Funès qui nous livrera sa carte blanche. Et puis avant 20h, tiens, on se replongera comme chaque jour dans les archives d'Europe 1. 29 avril 1968, première diffusion télévisée des chadocs. Vous savez, ces drôles d'oiseaux qui n'arrêtaient pas de pomper. Mais d'abord, le point sur l'info avec vous, Christophe Lamarre. Vous êtes bien sur Europe 1, il est 19h.
C'est un énorme soulagement, je peux vous dire. Hier soir, j'écrivais à tous mes employés. Ils ont hâte de nous retrouver, de retrouver aussi leur travail. Ça fait chaud au cœur.
Parole de restauratrice heureuse et soulagée. Emmanuel Macron vient de dévoiler le plan de sortie du confinement. 4 étapes du 3 mai au 30 juin, adaptées à la situation sanitaire propre à chaque département.
Réouverture des terrasses et des commerces le 19 mai. Possibilité aussi d'aller au stade avec une jauge fixée à 1000 personnes. Et puis fin du couvre-feu le 30 juin, si tout va bien.
On connaissait l'éthylotest pour mesurer le taux d'alcool dans l'air que l'on expire. À Lyon, on teste un appareil qui mesure le virus dans l'air que l'on souffle.
Les statistiques de l'insécurité et de la délinquance. On a la photo globale de l'année 2020 et la hausse des violences intrafamiliales est particulièrement forte.
La France veut extrader 10 anciens membres des Brigades Rouges vers l'Italie. À Rome, la décision est unanimement saluée par la presse et la classe politique italienne. L'œil de notre spécialiste des questions internationales, Didier François, dans ce journal. Et puis Noël Gallagher, invité d'Europe 1 ce soir à 20h. Oui, l'ancien chanteur d'Oasis sort un best-of.
C'est classe.
Ouais, avec deux titres inédits, extraits à la fin de ce journal.
La météo, Anissa Haddadi, un temps encore orageux demain dans le sud.
Oui, principalement des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur et le long de la vallée du Rhône, donc sur le grand quart sud-est. Les pluies seront importantes, orageuses une nouvelle fois demain et les températures, elles continuent de baisser. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Bien sûr, on ne sait pas encore quand on pourra retirer le masque, mais on a déjà un horizon pour le reste. Le déconfinement se fera donc en 4 étapes, avec une première phase le 3 mai, une dernière le 30 juin. Entre les deux, eh bien, des réouvertures progressives avec des jauges.
Alors, il y a deux secteurs qui ont particulièrement souffert de cette crise et de ses conséquences et qui attendaient toutes ces infos avec impatience. On pense bien sûr à la restauration et au commerce, notamment l'habillement. Alors, ça y est, ils ont une date, mais Clément Le Saffre, eh bien, les réactions sont plutôt partagées.
Oui, et commençons par la restauration. Là, c'est la libération. La question pour les restaurateurs, c'est de savoir s'ils rouvriront dès le 19 mai, juste avec leur terrasse, pour ceux qui en ont, ou si c'est plus intéressant d'attendre le 9 juin en salle. Mais peu importe, aujourd'hui pour Babette Leduc, restauratrice en Loire-Atlantique.
C'est un énorme soulagement, je peux vous dire. Hier soir, j'écrivais à tous mes employés. Ils ont hâte de nous retrouver, de retrouver aussi leur travail, de remettre un bon coup de ménage qui va être prévu vers le 10-11 mai, quoi qu'il se passe. Puis voilà, retrouver nos clients. Nos clients, on sait qu'ils vont être là, qu'ils sont fidèles et qu'on aura du monde, par contre, dès notre réouverture. Et ça fait chaud au cœur.
Donc de la joie dans la restauration, vous l'entendez. En revanche, les commerçants, eux, font grise mine. Ils avaient demandé une réouverture le 10 mai pour profiter du week-end de l'Ascension. Ce sera finalement le 19 mai. Éric Mertz, président d'Allure, le syndicat des TPE-PME de l'habillement, est très déçu.
C'est une véritable catastrophe. Une réouverture le 19 mai va définitivement condamner la marge que nous aurions pu faire sur la saison de printemps et d'été. Ça va probablement ouvrir très rapidement la vente à perte ou l'avancement de la date des soldes du 23 juin au 19 mai. Et pour la deuxième année consécutive, on va se retrouver avec une saison blanche sur la partie printemps-été.
Alors tout ça, on le rappelle, reste quand même lié à l'évolution de la situation sanitaire. Emmanuel Macron le rappelle dans son interview à la presse régionale, les réouvertures pourront être bloquées dans les départements où le nombre de contaminations restera trop élevé.
Merci beaucoup Clément Le Saffre du service Écho d'Europe 1.
Le 19 mai, on pourra donc aller prendre un café en terrasse. Moi, je m'imaginais justement déjà en terrasse.
Ça y est, vous y étiez,
j'étais en train de
rêvasser.
Ouais. Bah oui, c'est pas bien. Sous condition, donc le 19 mai, mais l'essentiel, c'est de pouvoir retrouver, ben voilà, c'est ça, un petit goût de la vie d'avant.
Et c'est vrai que ces annonces d'Emmanuel Macron sont plutôt bien accueillies hein, par les Français. Marine Protet est allée promener son micro à Paris et vous allez l'entendre, eh bien, ces Parisiens sont heureux de pouvoir enfin se projeter.
Les terrasses, moi, c'est ça que j'attends le plus. Parce que je suis âgée, comme vous pouvez le voir, et j'aime bien, en promenant à Paris, pouvoir m'arrêter quelque part pour prendre un un café, même toute seule. Hein.
Sortir un après-midi avec les copains, aller boire une bière après 19h.
On s'imagine déjà partir à la plage, à la mer et profiter à fond des beaux jours.
Aller se balader au-delà de 10 km quand même. Ne serait-ce que d'aller faire des randonnées, puis d'aller en Normandie, on a un petit pied-à-terre là-bas, donc on aimerait bien y aller.
Bah, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de pouvoir retourner voir des expositions. J'avais un abonnement Petit Palais, Grand Palais, Musée du Quai Branly. Je suis très frustrée parce qu'une exposition virtuelle sur un ordinateur, ça n'a rien à voir.
Ah, évidemment, ça n'a rien à voir. Des Parisiens heureux et impatients, interrogés par Marine Proté.
Le président de la République qui a quand même rappelé dans cet entretien dans la presse régionale qu'il y aura un protocole strict, bien sûr, à respecter, toujours le respect des gestes barrières, le port du masque, bien sûr, et le pass sanitaire qui pourrait être demandé dans certains cas.
Oui, c'est encore à l'étude pour aller au stade, dans une exposition où il y aura beaucoup de monde, dans les festivals ou encore les foires, il faudra peut-être un pass sanitaire. Il s'agira de produire un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un certificat de vaccination. La mesure est envisagée par Emmanuel Macron, mais pas encore tranchée. En revanche, le chef de l'État exclut de le rendre obligatoire pour aller au restaurant, au théâtre ou encore au cinéma.
Alors, ce déconfinement progressif va de pair, bien sûr, avec la campagne de vaccination qui suit son cours. La France a officiellement passé le cap des 20 millions de personnes vaccinées, si on cumule ceux qui ont reçu une dose et ceux qui en ont reçu deux.
Oui, l'épidémie qui recule, mais toujours à un rythme lent. Et au-delà de la vaccination, l'autre piste pour en venir à bout, eh bien, c'est le dépistage. Et s'il suffisait de mesurer la quantité de virus dans l'air.
Il y a l'air que l'on respire et puis celui que l'on expire. Et c'est cela qui intéresse les chercheurs. À Lyon, Jean-Luc Bougeon, on vient de mettre au point un appareil qui fonctionne comme un éthylotest.
Oui, effectivement, c'est exactement le même principe, sauf que pour l'instant, l'éthylotest Covid en question a plutôt la taille d'un frigo. C'est normal, c'est encore une expérimentation. En tout cas, comme pour souffler dans le ballon, il faut ici expirer dans un tuyau, comme ça.
Vous allez devoir souffler de manière constante, tout en regardant la flèche qui devra être dans le verre, à peu près au milieu. Je vous donne mon temps de départ.
Je trouve que c'est très sympathique. Moi, j'étais asthmatique étant petite et ça me fait penser un peu au test que je passais quand j'étais jeune pour le souffle. C'est même plutôt amusant.
C'est moins invasif que l'écouvillon dans le nez.
Ah bah tout à fait, ça fait même moins mal, c'est plus agréable quoi.
Alors l'énorme avantage, c'est le gain de temps, le résultat est connu très rapidement, explique le professeur Bruno Lina, virologue à Lyon et membre du comité scientifique.
Vous vous rendez compte, il faut moins de 15 secondes pour faire le diagnostic. L'idée, c'est un système qui permet par spectroscopie de masse de trouver des petits composants qui sont microscopiques, qui se trouvent dans l'air expiré et qui seraient la signature d'une infection par le virus.
Voilà, alors avec ce dispositif, on pourra dépister rapidement et massivement, par exemple à l'entrée d'un stade de foot, d'une salle de spectacle ou d'un aéroport. L'espoir est donc immense. Pour l'instant, les premiers résultats ont montré une fiabilité équivalente à celle des tests PCR classiques. C'est donc très encourageant. En attendant les conclusions de l'expérience qui devraient arriver d'ici quelques semaines, sans doute à la fin du mois de juin.
Voilà, Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
Europe 1, 19h07, un hommage national sera rendu demain à Rambouillet à la mémoire de Stéphanie, cette policière assassinée par un terroriste.
La cérémonie présidée par le Premier ministre au cours de laquelle cette fonctionnaire recevra la Légion d'honneur à titre posthume. Elle sera également citée à l'Ordre de la Nation. Ses obsèques se sont déroulées cet après-midi dans un cadre privé en présence du président Emmanuel Macron.
Le ministère de l'Intérieur publie les statistiques de l'insécurité et de la délinquance pour l'année 2020, année atypique, marquée bien sûr par deux épisodes de confinement.
Et forcément, on relève une forte baisse des vols et des cambriolages. En revanche, les gens étant restés chez eux, eh bien les violences intrafamiliales ont augmenté de 9%. Et Gladys Laffitte, on a maintenant le profil des victimes.
Oui, et sans surprise, 85% d'entre elles sont des femmes. Et en ce qui concerne les auteurs de violences intrafamiliales, eh bien ce sont des hommes à 87%. En 2020, les violences sexuelles ont aussi beaucoup augmenté, notamment les viols, plus 11%. Ça s'explique notamment par la libération de la parole des victimes. Elles portent plus plainte, c'est aussi pour ça que les statistiques augmentent. Ce qui est aussi frappant, c'est le fait que plus de la moitié des victimes de violences sexuelles sont des mineurs. Autre indicateur de cette année 2020 très atypique, la baisse massive de certaines formes de délinquance, notamment sur la voie publique, forcément avec moins de gens dans la rue durant les deux confinements, presque moins 20% pour les vols violents sans armes par exemple. On apprend aussi qu'ils sont commis à 45% par des mineurs, tout comme les vols de véhicules.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Paris veut expulser 10 anciens terroristes des Brigades Rouges. C'est une décision personnelle d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État répondait à une demande de l'Italie. 7 ont déjà été arrêtés hier. 2 autres se sont rendus aujourd'hui à la police.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors le président a choisi de clore un contentieux qui empoisonnait en fait les relations franco-italiennes depuis plusieurs années.
Oui, alors en Italie, on les appelait les ombres rouges de Paris. Parce que cette bande de de vieux militants d'extrême gauche réfugiés en France depuis près de 40 ans, a perdu cette aura romantique des combattants révolutionnaires dont elle aimait se parer dans les années 70. Ces défroqués de la lutte armée sont aujourd'hui considérés par la très grande majorité des Italiens pour ce qu'ils étaient, des terroristes à la retraite, qui ont finalement eu la chance de ne jamais avoir à payer le prix judiciaire de leurs crimes. Et parce qu'en fait, qu'ils aient été membres des Brigades Rouges, de Prima Linea ou des prolétaires armés pour le communisme, donc autant de cellules au nom toujours ronflant qui croyaient faire le bonheur du peuple à coups de rafales de mitraillettes, eh bien, ces 10 anciens activistes arrêtés ou recherchés par la police française ont tous un point en commun, ils ont du sang sur les mains. Tous ont participé à des attentats ou des assassinats de policiers, de chefs d'entreprise, gardiens de prison, d'un bijoutier. Et tous ont été condamnés par la justice en Italie. C'est à ce titre que le président de la République a décidé de répondre favorablement aux demandes d'expulsion transmises par Rome en tout début de semaine dernière.
Didier, pardon si j'ouvre mon micro, c'est mieux. Les avocats assurent pourtant que les promesses faites par François Mitterrand leur garantissaient le droit d'asile.
Eh bien en fait non. Cette fameuse doctrine Mitterrand élaborée en 1985 par le président socialiste français en collaboration avec le président italien du Conseil, c'était Bettino Craxi à l'époque, consistait effectivement à offrir l'asile en France aux militants de l'extrême gauche radicale italienne qui s'engageaient à arrêter toute activité politique. Et l'idée c'était de trouver une solution pour sortir de la spirale de violence politique qui frappait l'Italie. Rappelons qu'à l'apogée des années de plomb entre 1977 et 1979, la péninsule était secouée par plus de 2000 attentats par an. Mais cet accord, dès le départ, excluait clairement la clémence pour les terroristes impliqués dans des crimes de sang. Et donc le cas particulier de ces 10 anciens terroristes, qui finissaient d'ailleurs par empoisonner les relations franco-italiennes sans véritable raison, alors que la France et l'Italie sont devenues aujourd'hui des partenaires extrêmement proches sur un nombre considérable de sujets stratégiques, que ce soit en Europe ou en Méditerranée, face à la Turquie, en Libye. Et donc, il était temps de régler ce contentieux finalement assez anachronique et puis de prouver la confiance que pouvait accorder la France au fonctionnement des institutions italiennes. Elles ont beaucoup évolué sur les dernières années. Et c'est d'ailleurs c'est quelque chose qui a été très chaudement salué par la presse et par la classe politique transalpine, de droite comme de gauche, en fait, toutes tendances confondues.
Merci beaucoup Didier François, l'œil de Didier François, spécialiste des questions internationales tous les soirs dans ce journal de 19h. Un coup d'œil Christophe sur ce qui se passe sur la planète finance et les marchés, parce qu'il paraît que les cours des matières premières agricoles battent des records à la hausse.
Ouais, c'est du jamais vu depuis près de 10 ans. Le soja, le blé, le maïs voient leurs cours s'envoler, jusqu'à 50% d'augmentation pour le maïs par exemple. La météo, l'appétit de la Chine et la reprise du trafic automobile aux États-Unis expliquent en partie cette hausse. 30% du parc automobile américain par exemple roule à l'éthanol, grand consommateur de céréales.
Une taxe sur les comptes bancaires. La première banque danoise a trouvé le moyen de mettre ses clients à contribution.
Oui, la Danske Bank va taxer tous les comptes courants à partir de 13 500 euros. À compter du 1er juillet, ce sera entre 0,6 et 1% selon que vous êtes un particulier ou une entreprise. En Allemagne, la plus grande caisse d'épargne fait la même chose. C'est 0,5% de prélèvement dès 50 000 euros, seuil régulièrement abaissé. En France, évidemment, parce qu'on va se poser la question, eh bien, le gouvernement reste pour l'instant fermement opposé à ce genre de pratique.
Allez, puisqu'on a commencé ce journal avec une bonne nouvelle, le déconfinement annoncé, on va fêter ça en musique. Noël Gallagher est l'invité exceptionnel d'Europe 1 ce soir, dès 20h.
Oui, c'est le co-leader d'Oasis avec son frère Liam, sort un nouvel album, pas avec Oasis, l'histoire est terminée depuis longtemps, mais avec son groupe depuis maintenant 10 ans, High Flying Birds, un best-of avec deux inédits, sort demain, musique. You chose to drift away, but look at you now. Du best-of de Noël Gallagher à sortir, à paraître demain avec deux inédits dont vous venez d'entendre évidemment un petit bout. Noël Gallagher qui sera l'invité exceptionnel d'Émilie Mazoyer à partir de 20h sur Europe 1, c'est-à-dire dans 47 minutes.
On y sera, il y a intérêt. Merci Christophe Lamar, on vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à demain. Anissa Haddadi, pas d'évolution côté météo demain dans le sud.
Non, ça reste toujours très compliqué avec cette perturbation pluvieuse très active qui arrive de la Méditerranée et qui touche toutes les régions situées entre les Pyrénées et la Côte d'Azur en remontant tout le long de la vallée du Rhône. Donc ça concerne un grand quart sud-est du pays avec donc des nuages, des pluies orageuses soutenues avec, je vous le dis depuis 18h, mais parce qu'on va garder un œil dessus, une journée critique prévue pour ce samedi
où on attend un mois de pluie sur la seule journée de ce 1er mai. Donc il va falloir être prudent dans le sud parce qu'en plus de ce mois de pluie, on aura les cumuls d'eau déjà de ces derniers jours. Donc prudent si vous nous écoutez dans le sud-est. Partout ailleurs, pour demain, c'est assez simple. C'est une journée qui sera partagée entre nuages, éclaircies et averses. Voilà, ça va être un temps très mitigé avec des températures qui continuent de baisser. Hein. Moins 3 à Charleville-Mézières, moins 1 à Beauvais, 4 degrés à Strasbourg demain matin, 5 pour Paris et déjà 12 degrés pour Ajaccio et Perpignan. Dans l'après-midi, c'est stationnaire, quasiment comme aujourd'hui, 10 à 21 degrés, 10 à Dunkerque, 14 à Aurillac et Lille, 16 pour Bordeaux, 17 à Paris, 19 à Marseille et 20 pour Bastia.
Merci Anissa, on vous souhaite une très belle soirée.
Bonne soirée.
19h15 sur Europe 1, dans un instant, votre grand débat, le développement du vrac en France. Les consommateurs adaptent leurs habitudes aux problématiques écologiques, la grande distribution et les marques sont sommées de s'adapter. On en parle dans un instant, mais d'abord c'est la carte blanche du jour.
La Caisse d'épargne vous présente la carte blanche. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupée de la réalité.
Bonsoir Juliette Funès.
Bonsoir Isabelle.
Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on retourne avec vous, Julia, sur l'interview de Bernard Tapie. C'était au 20h de France 2, qui a rencontré un grand succès. Hein. Et c'est l'occasion pour vous, surtout, de revenir sur ce qui fait le charisme de quelqu'un, la séduction oratoire d'une personne.
Oui, qu'on apprécie ou non Tapie, l'homme d'affaires, et qu'on le considère à tort ou à raison comme un escroc, on ne peut pas retirer à l'homme qu'il est une force d'âme et une puissance vitale incontestable et exemplaire. A mené jusqu'à son dernier souffle un combat contre de multiples cancers, des procès interminables, un cambriolage d'une violence folle, il nous invite à penser que la seule défaite dans la vie est de se décourager.
Alors d'où vient selon vous une telle puissance, une telle force ?
Il a ce que Nietzsche appelait une volonté de puissance. C'est une force intrinsèque, une pulsion de vie qui fait qu'on veut toujours sa propre volonté, qu'on désire ses désirs, qu'on a envie d'être ce qu'on est et de dire ce qu'on dit. Et il n'y a rien de plus invincible ni de plus charismatique que de vouloir sa propre volonté.
Rien de plus invincible ?
Rien de plus invincible car une volonté qui se veut elle-même reste intacte, quels que soient les échecs essuyés. Pensez aux grands sportifs, je prends Nadal par exemple. Il ne veut pas simplement gagner pour la énième fois Roland-Garros, il veut toujours vouloir être le meilleur, vouloir être le vainqueur, vouloir être le champion. Il en veut, comme on dit familièrement. Et le pronom « en », le pronom personnel complément « en » renvoie à quoi ? À sa propre volonté. Et ça, c'est invincible. Il peut bien perdre un match, sa volonté de volonté n'est pas altérée, n'est jamais altérée. C'est ce qui fait toute la différence entre les volontaires qui obtiennent ce qu'ils veulent à force de volonté inaltérable et les velléitaires qui voudraient bien, mais que les difficultés ou la paresse découragent et abattent souvent.
Alors, vous disiez aussi rien de plus charismatique.
Oui, vouloir sa propre volonté, désirer ses désirs, c'est oser être soi-même. Or, il n'y a rien de plus impactant que l'authenticité. Prenez tous les grands orateurs. Ils ont chacun leur style. Trump a son charisme, Macron a son charisme, Lagarde, Christine Lagarde en a un autre. Cela signifie bien que l'impact sur un auditoire est une question de style, de personnalité, d'authenticité et non de posture, comme aiment à nous le faire croire parfois les formations en prise de parole en public qui proposent un florilège d'outils, de recettes, de techniques en tout genre comme explication vaine, parce qu'un peu trop facile, du charisme.
Oui, ça ne vous convient pas ces formations. Pour terminer, Julia ?
Pour terminer, cette volonté de puissance, cette force de vie dont je viens de parler, est le signe de ce que Nietzsche appelait la grande santé. Bernard Tapie, en incarnant sans relâche et aujourd'hui encore cette force de vie, nous montre paradoxalement que la maladie, même très grave, n'est pas toujours l'opposé de la grande santé.
Merci beaucoup, c'était la carte blanche de Julia de Funès. Et moi j'ai un peu manqué d'éloquence, j'ai dit que c'était sur France 2, c'était sur
TF1,
mais à coup pas. h 19, vous êtes bien sur Europe 1 et dans votre club des idées. Ce soir, on va s'intéresser à un phénomène en plein essor, la vente en vrac. Alors, on connaît tous les pistaches, les noix de cajou, les céréales, le café, les lentilles, les bonbons vendus en distributeur. Eh bien, on devrait bientôt trouver tout un tas d'autres produits puisque les députés ont adopté, dans le cadre de la loi climat, un dispositif qui vise à développer cette vente en vrac, notamment dans la grande distribution. Vous allez voir, c'est un sujet passionnant. C'est l'avenir puisque, plus que jamais, la lutte contre le gaspillage est un enjeu environnemental et économique. On en parle ce soir avec mes invités. Célia Renson, directrice de l'association Réseau Vrac. Bonsoir.
Bonsoir.
Olivier Dover, spécialiste de la grande consommation et éditeur de l'Observatoire du Rayon Vrac. Bonsoir,
bonsoir
à vous. Et Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la grande distribution. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup à tous les trois de m'accompagner ce soir. Alors, je parlais du projet de loi climat, de cet article qui vise à développer la vente en vrac. Il impose donc que d'ici 2030, 20% de la surface de vente pour les commerces de plus de 400 mètres carrés soit consacrée à la vente en vrac. 20%, c'est énorme. On est très loin du compte pour l'instant, Célia Renson ?
On est très loin du compte, on est en moyenne entre 0,2 et 2% de la surface de vente. En tout cas, si on s'applique à la définition stricto sensu de la vente en vrac, puisqu'aujourd'hui c'est la manière dont l'article 11 a été présenté, mais on a déposé un certain nombre d'amendements pour faire évoluer cet article-là et faire en sorte que les objectifs soient atteignables et crédibles. Et on a été entendus, puisque l'ensemble des amendements déposés par Réseau Vrac ont été adoptés, et donc qui va permettre en fait de fixer cet objectif-là à l'ensemble des produits présentés sans emballage primaire. Donc on va pouvoir inclure à la fois les rayons de fruits et légumes, mais également tout ce qui est service à la coupe, à partir du moment où un contenant réutilisable et réemployable est présenté aux clients. Et aussi, ces 20%-là, aujourd'hui, ils ont été aménagés de manière à permettre au magasin soit d'être atteignable par la surface de vente, ou le chiffre d'affaires, ou l'assortiment. Donc en fait, on a le champ des possibles pour atteindre ces objectifs.
Ça, c'est parfait, ça. Alors aujourd'hui, le vrac, ça représente, pour qu'on situe bien, quelle part du marché de l'alimentation, Olivier Devers ?
Ah, c'est une part extrêmement minime si on raisonne sur le vrac tel qu'on l'a en tête, c'est-à-dire les pâtes, le riz, les lentilles, quelques produits qu'on va chercher, vous savez, dans les fameux silos, qu'on appelle aussi trémies. Donc, c'est l'épaisseur du trait, ça ne représente rien. Si, évidemment, on rajoute les fruits et légumes, comme ça sera probablement le cas, là, dans ces cas-là, on peut arriver à 10% d'un magasin quand on rajoute tout ça et la rayon coupe. Mais si on le met en euros, ça commence à peser quand même, puisqu'on est à plus d'un milliard d'euros d'achats des consommateurs quand on met tout bout à bout. Donc, vous voyez, en pourcentage, c'est pas beaucoup. En euros, ça commence quand même à sonner.
C'est les hameçons.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, au niveau du marché des PGC, on est à peine à 0,75%. Donc, on n'est pas beaucoup. Mais on inclut aussi dans les
PGC,
grandes...
PGC, ça veut dire, pardon ?
Produits de grande consommation.
Très bien.
On est plus de 156 milliards. Aujourd'hui, on est à peine à 1,3 milliard. Mais on a eu des fortes progressions. Avant la création de l'association Réseau Vrac, c'était à peine 150 millions d'euros. On a quasiment fait x10 en 5 ans, donc il faut regarder la progression et le potentiel. Plus aujourd'hui, un pouvoir législatif qui nous soutient, l'arrivée des grandes marques dans le vrac qui s'y mettent, parce que justement, on a un cadre législatif favorable, on a un marché qui se construit et qui inspire confiance. Et on a aussi un certain nombre d'innovations qui va nous permettre d'élargir le nombre de produits qu'on va pouvoir trouver et consommer en vrac.
Alors, on va détailler tout ça, bien sûr. En tout cas, on comprend que c'est un marché qui a une croissance extrêmement rapide. Pour l'instant, quand on pense au vrac, on pense surtout aux magasins bio, parce que ce sont les premiers qui s'y sont mis, Olivier Devers, non ?
Oui, parce que dans ces magasins-là se trouvent des clients qui sont probablement parmi les plus militants, donc les plus réceptifs, les plus perméables à ces nouvelles façons d'acheter. Parce que quand même, acceptons l'idée qu'acheter en vrac, pour certains consommateurs, c'est quand même une forme de contrainte, c'est moins pratique, il faut se servir, il peut y avoir des doutes éventuels sur l'hygiène, je ne dis pas que c'est réel, mais il peut y avoir ces doutes-là.
On va revenir sur effectivement tous ces aspects-là qui sont très importants.
C'est bio parce que ce sont des militants, tout simplement. Donc, militants pour la planète au sens très large, avec les emballages dans le combat.
En tout cas, Célia Renson.
En fait, ça a été une manière pour les magasins bio de démocratiser les produits bio au sein de leurs propres magasins. Et c'est exactement le même angle qui a été repris par les enseignes de la grande distribution. Quand elles ont pris le vrac, c'était pour offrir des produits bio moins chers.
Oui. Alors c'est vrai qu'on commence à en voir, Jacques Cressel, dans la grande distribution, de ces produits en vrac. Ça reste encore très limité.
Ça représente une part croissante. Il faut bien voir que d'abord, on représente du côté des grandes surfaces alimentaires à peu près 50% du total, déjà. Et que par ailleurs, vous
50%
avez...
50% du total
du marché.
50% du marché.
Ah oui.
50% du marché. 45% pour les magasins bio qui étaient évoqués à l'instant et le reste un peu ailleurs. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est croissant. Et quand vous regardez les magasins sur les hyper et les supermarchés, vous avez à peu près 70% des magasins qui ont d'ores et déjà un rayon vrac. Alors, ça se développe. On est effectivement de l'ordre de 1% du total, mais on voit bien que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est de plus en plus demandé. C'est pour ça que nous accueillons ça de manière très positive. Nous étions tout à fait en phase avec Réseau Vrac sur les amendements en question que nous avons également poussés de notre côté. Parce qu'il faut que, si on veut atteindre 20%, on part de 1%. Il faut naturellement faire en sorte que ça soit qu'il y ait le maximum de souplesse. Et notamment, le sujet des surfaces de vente, on voit bien que tout dépend du type de magasin. Donc, c'est soit les surfaces de vente, soit tout autre système aboutissant à peu près au même résultat, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, le nombre de références. Donc, tout ça va... Et puis, il y a des produits pour lesquels c'est plus difficile de faire aujourd'hui.
Quels produits prévoyez-vous de développer dans la vente en vrac?
À peu près tous les produits qui sont vracables, pour lesquels par il peut exemple, y avoir une demande. Il y a des produits, aujourd'hui, vous prenez du desktop, c'est un peu plus compliqué de, de le vendre de cette façon-là, ce n'est pas le premier. Par contre, les produits comme les pâtes, comme toute une, et donc, des produits secs, puis progressivement des produits liquides, on voit bien que c'est plus compliqué déjà. Il y a le sujet des produits d'hygiène, pour lesquels ça se développe. Il y a toute une série de produits pour lesquels on va, et on le voit, on fait des expériences dans les magasins, on regarde comment tout ça se met en place. Ce n'est pas facile, hein, parce que ça suppose c'est un changement complet, y compris d'ailleurs dans les relations qu'on a avec nos fournisseurs. On a aujourd'hui des fournisseurs qui sont assez réticents dans un certain nombre de cas. Les industriels
ils sont prêts réticents à faire des expériences,
mais ils ne veulent pas avancer trop vite. Hein.
Parce que c'est compliqué aussi pour eux, c'est changer leur mode de fabrication aussi.
Et puis, derrière, vous voyez, dans les relations qu'on a entre distributeurs et nos fournisseurs, par exemple, ça veut dire que ça sera plus aussi facile que ça de changer ce qui se passe dans un rayon. On est que, par ailleurs, aujourd'hui, une grande partie du marketing se fait sur l'emballage. Ce marketing devra se faire de manière différente. On a des sujets qui sont des sujets concrets, non seulement d'hygiène, mais aussi des sujets pour peser. Donc, ça suppose des nouveaux types de machines pour délivrer les produits. Enfin, il y a plein de choses. Et en même temps, c'est quelque chose de passionnant. Et nous, on est tout à fait partant.
Oui, Sonia Renson. Célia Renson, pardon.
Il y a effectivement deux sujets. Pourquoi les marques ont été réticentes? Tout d'abord parce qu'il n'y avait pas de marché. Enfin, je pense que c'est le tout premier et on est en train de le créer. Donc, et d'ailleurs, la France, c'est le pays le plus développé aujourd'hui en matière de vrac.
Aujourd'hui, il y a un marché parce qu'il y a aussi une forte pression des clients.
Il y a une demande des clients, mais clairement, Réseau Vrac a permis d'organiser ce marché. On a mis en place dès le début des formations, réglementations, bonnes pratiques d'hygiène, on dépoussière le cadre législatif, on fait avancer la législation. Et aujourd'hui, il n'y a aucun entrepreneur qui voudra se lancer dans un marché s'il n'y a aucune règle du jeu qui sont claires. Donc on a créé les conditions du marché, on montre qu'il y a de la demande. Le deuxième niveau, c'est qu'effectivement, il y a toute cette histoire du marketing. Comment moi je vais exister en vrac alors que jusqu'à présent le vrac c'est le produit est son propre marketing et le fournisseur disparaît un petit peu, donc il y a toute cette question-là. Mais la troisième question elle est effectivement sur l'hygiène. Dans quelles conditions mon produit va être remis dans les mains de mon client et il doit être remis dans les mêmes conditions d'hygiène qu'à la sortie de la ligne de production de son usine.
Alors ça on va y revenir, c'est promis. Dans la deuxième partie de notre débat, je vous propose qu'on marque une très courte pause et on va aussi vous donner pas mal d'exemples concrets juste après cette petite pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h29, suite de notre débat consacré ce soir au succès de la vente en vrac qui s'inscrit dans un mouvement de fond de consommation plus responsable. L'intérêt, c'est d'utiliser moins de plastique, de n'acheter que ce dont on a besoin et de réduire ses déchets. Avec moi ce soir, Célia Renson, directrice de l'association Réseau Vrac, Olivier Dover, spécialiste de la grande consommation et éditeur de l'Observatoire du Rayon Vrac, et Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Grande Distribution. Alors, il faut rappeler quand même que le vrac, ça n'est pas vraiment une invention récente, hein. C'était le quotidien des Français jusque dans les années 70. Olivier Dovers, moi je me souviens très bien de ma maman dans la petite épicerie du coin, elle achetait en vrac déjà.
Oui, parce qu'il y avait un lien à ce moment-là entre la vente au comptoir, c'est-à-dire la vente assistée où le commerçant portionnait pour le consommateur et le fait que les marques étaient encore finalement très peu présentes à ce moment-là, que toute l'industrie agroalimentaire n'avait pas connu le développement fulgurant. Donc désormais on est en achat en libre-service. Donc ça ressemble quand même plus tout à fait à ce que vous connaissiez avec votre grand-mère. Mais dans les faits, c'est vrai que vous achetez de manière portionnée quand même.
Alors on a l'image, sans doute erronée, tronquée, d'un profil d'acheteur plutôt bobo. C'est encore le cas ou ça s'est vraiment démocratisé, le vrac, c'est les Renson?
Je pense qu'en fait, ça a toujours été une image qu'on a en tête, mais je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'en fait, quand on regarde les chiffres, l'acheteuse ou l'acheteur de vrac, c'est monsieur et madame tout le monde, et on reflète exactement la population française. Le premier acheteur de vrac, c'est la personne seule. C'est 38% des acheteurs, et aujourd'hui, il y a 36% des Français qui vivent seuls.
Il y a une génération qui est plus sensible au vrac?
Le premier acheteur de vrac a plus de 50 ans. Alors, je ne sais pas s'il y a une génération. Bon, après, on a quand même les moins de 35 ans, on a quand même des jeunes. Mais on retrouve pas mal de jeunes, pas mal de personnes âgées, des personnes qui vivent seules, des retraités, des gens qui vivent dans des villes rurales, dans des zones rurales ou dans des villes de moins de 20 000 habitants. Et en fait, au niveau des CSP, là, donc après les retraités, on a en fait les cadres moyens et ensuite les cadres sup avec les ouvriers. à part égale.
D'accord.
Oui, mais en fait, on a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le vrac aujourd'hui coûte plus cher que le pré-emballé à produit à unité de besoin comparable.
C'est la question que j'allais vous poser.
Et qu'il y a finalement très peu de familles qui se retrouvent sur l'achat en vrac, si Célia. C'est une réalité.
Célia Renson n'est pas d'accord avec vous.
C'est une réalité. Vous prenez le prix moyen des pâtes vendues en vrac et vous le comparez au prix moyen des pâtes dans un rayon libre-service, il n'y a pas photo. Et de fait, ce n'est pas une insulte au vrac, c'est une réalité parce que le niveau de gamme proposé n'est pas le même. Quand vous avez en vrac souvent des produits bio, ils sont automatiquement plus chers que les Panzani ou les Barilla.
Et donc ça freine effectivement certains budgets.
Mécaniquement.
Sauf que souvent ce qu'on dit, c'est que, enfin, le vrac, c'est un mode de distribution. Ce n'est pas un produit. Il n'y a pas un cahier des charges vrac.
Oui, donc, mais dans les faits, il se trouve qu'ils sont souvent de qualité supérieure ou bio. Donc, ça éloigne le prix du vrac du prix du libre-service. Il suffit de faire ses courses pour s'en rendre compte.
Je suis en partie d'accord, mais il y a quand même, chez Auchan, ils ont quand même fait le vrac au début avec le rayon discount.
Il y a une seule enseigne.
Discount existe aussi. Et on a toujours des premiers prix qui arrivent quand même à être proposés. On le voit dans l'enseigne Day by Day, où ils arrivent très bien à s'aligner sur, justement, le prix moyen du produit de base. Et l'achat en vrac, c'est juste une autre manière d'acheter. Et en fait, revient moins cher
Mais pourquoi c'est moins cher avec un emballage que sans emballage?
Parce que c'est les séries sont beaucoup plus grandes, malheureusement. Quand vous êtes Panzani,
ça fait 40 ans qu'on fait des lignes de production.
À très grande quantité. Quand vous les emballez, comme vous le faites tous les jours, depuis toujours, j'allais dire, ben forcément, il y a des économies d'échelle. Le jour où vous êtes obligé de détourner une partie de votre production pour créer un emballage nouveau qui est beaucoup plus grand pour qu'il puisse alimenter les fameuses trémies et les silos des rayons vrac, vous faites des beaucoup plus petites séries, vous n'avez pas d'économie d'échelle. Et donc, voilà, c'est pas faire insulte de dire que le vrac, pour le moment, avec les volumes qu'il représente, c'est plutôt un produit qui est plus cher que moins cher, alors que dans l'imaginaire, on devrait se dire, dès lors qu'il n'y a pas d'emballage, il devrait être moins cher.
Mais c'est un argument qui peut freiner les marques, les Barilla, les Panzani.
Tous les exemples que l'on a à date, où vous avez des grandes marques qui arrivent au rayon vrac, il n'y a jamais un avantage prix pour le consommateur. Jamais. Mais c'est comme ça.
Pour le moment, je suis tout à fait d'accord. Pour les marques, c'est clairement un investissement. Elles n'ont aucune ligne de production, sauf si elles font un peu de CHR, tout ce qui est café, hôtellerie, restauration, pour avoir en fait un conditionnement qui est adapté au vrac. Mais ça, il faut concret, il faut qu'on ait les volumes. Et ensuite, il y a quand même des marques, je prends l'exemple de la marque Bindi, parce qu'ils se sont organisés d'une certaine manière où ce sont eux qui conditionnent leurs produits
en
vrac.
Ils font quoi, Bindi, par contre ?
Pardon ? Ils font des plats végétaux cuisinés, des assemblages de lentilles, d'épices, etc. Et ça leur coûte à eux 20% moins cher de conditionner leurs produits dans des emballages vrac que dans des petites portions. Donc du coup, mécaniquement, ils le vendent au magasin 20% moins cher, le magasin prend sa marge de main-d'œuvre, etc. Et quand on arrive à comparer ce même produit au rayon pré-emballé, au rayon vrac, il est moins cher. Mais c'est effectivement
ça, c'est
pas
une exception.
Le cas. Mais c'est pas le cas de tous. Et en fait, tout simplement, ça dépend si le fabricant a intégré ce conditionnement de vrac ou pas dans ces chaînes de production.
Jacques Ressel, on comprend bien que ça n'est pas forcément dans l'ADN des fournisseurs. Hein. Ça n'est pas non plus forcément dans l'ADN de la grande distribution. Le vrac, c'est pratiquement un changement de métier aussi pour vous.
Ah, c'est un changement complet de métier. Mais en même temps, nous, on est là pour faire en sorte d'aller dans le sens de ce que souhaitent nos clients. Et d'ailleurs, nos clients, pour reprendre ce qui était dit à l'instant, là, quand on leur demande sur le vrac pourquoi ils veulent acheter du vrac, c'est pas d'abord pour un problème de prix, hein. C'est d'abord pour faire en sorte que les quantités qu'ils achètent correspondent à ce qu'ils souhaitent. Et c'est ensuite pour économiser les emballages.
Réduire leurs déchets, évidemment.
Naturellement, ils ne veulent pas payer plus cher et autres. On voit bien que tout ceci changera. Parce que là, comme le disait Olivier à l'instant, c'est vrai qu'on est sur des produits qui sont plutôt dans le rayon bio, d'ailleurs, très souvent chez nous. Donc, il y a cette assimilation qu'on évoquait tout à l'heure. Mais progressivement, on va sortir de tout ça. Mais en même temps, il faut voir que le consommateur, il va être un peu perturbé parce que quand vous allez avoir 5, 10 sortes de spaghettis les uns à côté des autres aujourd'hui, vous arrivez à peu près à voir la différence
en
vision immédiate. Ensuite, ça ne va pas être forcément facile de savoir quelle est la qualité du blé dur, quel est le type de pâte aujourd'hui. Ça n'est pas la même chose.
Il y aura probablement moins de choix pour le consommateur.
Et il y aura sans doute moins de choix.
À surface comparable, vous mettez moins de silos pour vous servir que vous ne mettez de paquets de pâtes différents. Donc, ça va être quelque part un renoncement pour le client sur le choix, pour une adhésion sur un autre combat qui est celui de la réduction des emballages.
Alors, ou moins de références en magasin, au final.
Sauf qu'on voit aujourd'hui que chaque fois que vous mettez du choix, le consommateur est très réceptif, parce que nous voulons du choix. Malheureusement, peut-être.
Donc,
mais
ça va être un dilemme aussi, oui, aussi pour la grande distribution.
Bien sûr,
oui, c'est
un problème permanent qu'on a. On voit bien qu'on est dans un pays dans lequel il y a un choix gigantesque dans nos magasins par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et en même temps, on sait bien qu'économiquement, on arrive à la limite de tout ceci. La tentation normale, c'est plutôt de réduire le nombre, pour des raisons économiques, le nombre de références. Ça va être bon pour cela. Mais en même temps, effectivement, le consommateur, il adore avoir des références supplémentaires. Donc, on est dans cette ambivalence et toujours ces contradictions. Le consommateur est pétri de contradictions en permanence, ça en fait partie.
Alors, on le disait, les marques commencent à s'y mettre. Aujourd'hui, il y a par exemple une expérimentation sur le Babybel. J'ai découvert ça en présentant l'émission, des Babybel à l'unité, débarrassés de leur petit emballage en cellophane. Oui, et j'ai aussi découvert en préparant cette émission qu'il pourrait aussi y avoir des yaourts en vrac. Bonsoir Christophe Audouin.
Bonsoir Isabelle.
Vous êtes directeur général chez Les Prairies Bio, c'est une filiale de Danone en France. Vous avez commencé à tester ce concept, Christophe Audouin. Comment ça se passe, le yaourt en vrac?
Alors oui, on a commencé à tester ce concept chez un client que vous avez d'ailleurs cité, qui s'appelle Day by Day. En fait, la raison d'être des Prairies Bio, c'est d'apporter des solutions aux problématiques sociales et environnementales de l'agroalimentaire. Et on vend beaucoup de yaourts aujourd'hui en pot en plastique. Et quand on a changé il y a plus de 2 ans pour passer d'un plastique d'origine fossile à un plastique d'origine végétale sur nos yaourts Ferbien et les deux vaches, on s'est rendu compte que certes la solution était meilleure, mais qu'elle n'était pas parfaite parce que en termes d'emballage, il n'y a pas de solution parfaite. Et finalement, le meilleur emballage, c'est celui qui n'est pas fabriqué. Et c'est comme cela qu'on en est venu à réfléchir à une solution en vrac. Or, le produit frais, le yaourt, aujourd'hui n'existe absolument pas en vrac. On a trouvé un partenaire pour nous accompagner sur ce premier test il y a 2 ans, qui est Day by Day. Et puis on avait la chance, nous, de notre côté, d'avoir dans notre laiterie en Normandie une ligne de production qui savait déjà faire des poches de 5 litres. Et puis dans nos réserves, des anciens distributeurs de yaourt pour la restauration commerciale, pour des services individuels.
Mais alors,
qu'on a customisé,
ouais,
et
vous
aménagé.
Avez customisé tout ça. Et alors concrètement, comment ça se passe si je veux acheter des yaourts en vrac qui viennent de chez vous?
Eh bien, vous vous rendez dans les 5 magasins des Day by Day de Paris et de la région parisienne. Et vous pouvez, grâce à ce distributeur de yaourts, qui était évidemment sous température contrôlée, vous servir la quantité exacte que vous souhaitez, en utilisant soit le contenant qui est proposé par le magasin, soit votre propre contenant, pour peu qu'il soit propre et avec un couvercle.
C'était la question que j'allais vous poser. Si le pot dans lequel je verse mon yaourt n'est pas très bien lavé, si du coup le produit se détériore, si je tombe malade, il se passe quoi? Qui est responsable?
Alors ça, c'était typiquement un sujet qui, jusqu'à il y a un an, était encore finalement pas clairement défini. Mais la loi AGEC de février 2020 a beaucoup plus libéré l'usage et l'utilisation du contenant du consommateur pour un produit sensible comme un yaourt, qui est un produit frais. Et donc, à partir du moment où une information est faite sur le magasin, que le personnel du magasin est formé pour servir un yaourt en vrac et que le contenant du consommateur est propre avec un couvercle, alors le consommateur devient d'une certaine façon responsable du produit qu'il achète.
Je vous interromps deux secondes. Jacques Ressel, ça fait du boulot supplémentaire, ça aussi, pour les personnels des magasins.
C'est un des éléments de coût supplémentaire qui peut exister, en même temps qu'il y a d'ailleurs un autre sujet qui est que vous prenez un hypermarché le samedi après-midi, il y a énormément de gens qui achètent des yaourts en même temps. On voit bien que si chacun, lieu de prendre un yaourt, se sert, ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Et donc, il y a un vrai problème de gestion des magasins qui va être à regarder. C'est pour ça qu'on a jusqu'à 2030 pour monter en puissance, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il va falloir expérimenter, regarder et éventuellement trouver d'autres solutions.
Et c'est aussi pour ça que ça se passe dans des magasins qui sont en général un peu plus chers. Je reviens encore une fois sur le prix, mais je parle sous votre contrôle, Christophe.
Vous allez fâcher,
je crois que le yaourt, c'est 5,95 €, celui que vous vendez chez Day by Day. Le kilo, je crois que c'est le prix. Pour vous donner un élément de comparaison, le yaourt Danone classique, c'est 2 euros le kilo. Évidemment, ce n'est pas le même produit, mais on revient toujours sur cette idée-là, c'est que est vendu en vrac un produit qui est en général un peu supérieur à celui qui est en libre-service. Donc, en apparence, pour le consommateur, ça paraît plus cher.
Vous confirmez, Christophe Audouin ?
Oui, oui, c'est indéniable, mais on est sur des consommateurs dans Paris qui sont souvent effectivement foyers uniques et qui sont ravis pour limiter le gaspillage alimentaire et évidemment optimiser l'utilisation des emballages.
Ça veut dire qu'en région, ça n'arrivera jamais, vos yaourts en vrac ?
si, de la même façon, parce qu'il y a, comme le disait Célia, la même envie de contrôler son alimentation et d'acheter exactement la bonne quantité. Et c'est ce que Célia disait, le vrac revient moins cher, il peut coûter plus cher, mais il revient bien moins cher pour le consommateur parce qu'il peut choisir la quantité souhaitée.
Et comment faites-vous avec la chaîne du froid, Christophe Audouin ?
Il a fallu, typiquement pour Day by Day, qui n'a pas de rayon frais dans ses magasins, avoir une chaîne du froid maîtrisée. Donc on livre évidemment sous température dirigée les magasins et on a un distributeur de yaourts qui est en permanence entre 3 et 5 degrés avec une poche qui est gardée, évidemment, 3-5 degrés. Donc on a exactement les mêmes conditions de commercialisation que dans un rayon ultra frais dans un grand magasin.
Et comment je connais la date de péremption ?
Alors ça, c'est un point qu'il a fallu évidemment maîtriser, voire même inventer. Donc on a la date classique de fabrication qui est de 30 jours aujourd'hui. Ensuite, le commerçant sait, lui, qu'il a 10 jours pour utiliser sa poche. Donc il ne doit pas dépasser ces 10 jours-là. Mais on n'a pas ce problème-là aujourd'hui parce que les poches se vendent très très vite.
Mais quoi, il met
et
une
ensuite,
petite
le consommateur,
étiquette, il met une étiquette,
pardon,
il met une étiquette,
oui,
le commerçant.
Et
ouais.
Ensuite, oui, bien sûr. Et ensuite, est collé sur le contenant tous les éléments de traçabilité avec une DLC cette fois-ci pour le consommateur qui est de 3 jours aujourd'hui.
Ouais.
Qui est de 3 jours.
D'accord.
Donc le consommateur sait qu'il a 3 jours pour consommer ce yaourt.
Et si je suis allergique à tel ou tel produit, est-ce que je peux savoir s'il n'y en a pas ?
Tous les éléments de traçabilité et d'origine sont écrits effectivement sur l'étiquette qui est collée sur le contenant du consommateur, exactement comme pour un yaourt classique.
Merci beaucoup Christophe Audouin pour votre témoignage, directeur général chez les Prairies Bio, filiale de Danone. Alors effectivement, s'il faut faire la queue, Célia Renson, pour derrière tout le monde le samedi pour aller acheter son yaourt, s'il faut mettre ses lunettes pour regarder la date de péremption, voir s'il n'y a pas tel ou tel produit qui donne des risques d'allergie, ça ne facilite pas les choses quand même avec toute la bonne volonté du monde.
On est là pour ça. On est là pour faire en sorte que le vrac soit aussi pratique que le pré-emballé. Moi, c'est clairement pour ça que j'ai créé Réseau Vrac. C'est pour démocratiser la vente en vrac. On avait identifié un certain nombre de freins. À nous de les lever pour qu'aujourd'hui, les 37% des Français qui consomment en vrac, qu'on puisse dépasser ce chiffre-là, dépasser les 50-60% de Français. On a 5,4 millions de foyers français qui consomment régulièrement du vrac, c'est-à-dire au moins une fois par mois. Mais il faut qu'on fasse au moins fois 5 d'ici 10 à 20 ans.
Alors la vente en vrac, on l'a bien compris, notamment avec les yaourts, c'est aussi le grand retour de la consigne qu'on connaissait aussi en France jusque dans les années 80, qui permet aux consommateurs d'acheter un produit, de voir rembourser une partie de son prix lors de la restitution de son emballage. Ça incite effectivement à recycler ces contenants plutôt que de les jeter. Ça veut dire que dans la grande distribution, vous allez aussi devoir, Jacques Ressel, proposer des contenants pour chaque produit, pour ceux qui arrivent et qui disent « tiens, mince, j'ai oublié mes pots pour mes yaourts ».
Bien entendu. D'ailleurs, le problème général de la consigne est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps. Il y a le sujet du verre, mais il y a aussi le sujet du recyclage des canettes en aluminium, toute une série d'éléments de ce type-là, sur lesquels, en plus, il y a des obligations européennes extrêmement fortes qui pèsent. Et donc, là aussi, il va y avoir des progrès énormes dans les années qui viennent.
Alors, je voudrais qu'on prenne un témoignage en ligne. Bonsoir, Maria.
Bonsoir.
Maria Mella, vous tenez deux boutiques de vrac à Paris qui s'appellent The Naked Shop. Alors vous proposez du vrac liquide. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous ?
Exactement. Donc on propose principalement des produits d'entretien et des produits cosmétiques. Donc shampoing, gel douche, savon liquide pour les mains par exemple.
Ça, ce sont des produits qui peuvent s'adapter sans problème au vrac.
Que nous, on a adapté sans problème pour les vrac. Et nous, on a ouvert notre premier magasin en 2018. Et à l'époque, il n'y avait pas des boutiques vraiment spécialisées dans les liquides. Donc, c'était un rêve parce que c'était des produits que moi, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à trouver. Et donc, on a imaginé ces concepts. Et pour cela, il a fallu en fait fabriquer nous-mêmes nos machines. Donc, en fait, dans nos deux magasins à Paris, aujourd'hui, on a des distributeurs automatisés pour le vrac et des distributeurs qui permettent de se servir très rapidement et surtout la quantité souhaitée.
C'est une démarche personnelle, on le comprend bien chez vous, hein, Maria, le zéro déchet, c'est quelque chose de très important. C'est vrai que pour tout le monde, l'objectif, c'est aussi de réduire ses emballages et ses déchets, parce que quand on rentre en général d'un magasin, on passe plus de temps à tout mettre à la poubelle qu'à ranger ce qu'il y a dans le frigo. J'ai lu qu'un Français jette en moyenne 80 kilos d'emballages chaque année, c'est énorme. Alors Marie, est-ce que ça coûte moins cher d'acheter chez vous de la lessive ou du savon en vrac? Parce que ça, c'est une autre question importante qui nous divise un peu ici.
Oui, j'ai entendu le débat et en effet, en fait, il faut comparer toujours au prix égal, aux qualités des produits égales. Donc évidemment, on ne peut pas se comparer à produits de premier prix avec une qualité douteuse. Donc nous, on a fait le choix de choisir déjà des fournisseurs qui sont également très engagés, des fournisseurs locaux, donc on a fait une sélection de fournisseurs les plus proches de Paris possible aussi, parce qu'on essaie de calculer les bilans carbone. Tout ça, c'est des choix qui font qu'à la fin, peut-être qu'on va trouver des gammes de certains produits qui vont pas être forcément moins chers que les premiers prix au supermarché. Mais il faut savoir tout ce qu'il y a derrière, hein, dans la démarche. Donc, encore une fois, quand je parlais des fournisseurs, par exemple, il faut savoir que chez nous, les contenants que nous, on reçoit, donc les grands bidons des 20-25 litres, ils sont aussi consignés. Donc, ils vont retourner chez nos fournisseurs. Tout ça, c'est une logistique à prévoir et qui a un coût. Donc, oui, pour nous, c'est peut-être pas la priorité principale, c'est peut-être pas d'avoir les prix moins chers du marché, mais surtout, notre priorité, notre combat, c'est de pouvoir prendre soin de la planète.
Et des produits de qualité, effectivement, écologique. Merci beaucoup, Maria Mella. Je rappelle le nom de vos deux boutiques, The Naked Shop à Paris. Est-ce qu'on peut faire vraiment du premier prix en vrac, Olivier Dauvers?
Alors, il y a une enseigne qui a lancé ses rayons vrac sur le premier prix. Ça, c'est Auchan, qui a des rayons qui s'appellent le self-discount. Mais dans les faits, c'est une exception. La règle générale, c'est plutôt de trouver des produits de qualité supérieure, notamment parce que bio, dans les rayons vrac, parce que ça correspond à ces consommateurs. Encore une fois, imaginons bien qu'une famille où il y a papa, maman et trois enfants, ce n'est pas la famille qui achète vrac aujourd'hui, pour des raisons de praticité. Quand vous achetez des pâtes pour une famille de 5 personnes, vous n'en achetez pas 200 grammes. Voilà. Donc, automatiquement, il faut accepter l'idée que portionner des petites quantités, c'est pour des petits foyers. Ça tombe sous le sens de le présenter comme ça, mais c'est la vérité. Donc, dans ces cas-là, vous voyez que ces gens-là, ça sera probablement les derniers à aller vers le vrac, même s'ils peuvent être convaincus en tant que citoyens. Hein.
Oui, c'est ça pas exclut quand même pas mal de personnes.
C'est pas tant que ça exclut, c'est que ça montre que le développement du vrac sera forcément lent. Il faut l'accepter. Il ne faut pas y aller de manière dogmatique. Il faut aussi considérer que certains produits sont moins vrackables que d'autres, Jacques l'a dit. Et puis, il y a aussi des choses qu'il faut avoir en tête. Le vrac liquide, par exemple, vous ne le portionnez pas à la quantité que vous voulez. Si la bouteille, elle fait un demi-litre ou un litre, vous en prenez un litre ou un demi-litre. Donc, ce n'est pas tout à fait le même vrac, le liquide et le solide.
Juste une toute dernière question. Est-ce qu'on est en retard en France par rapport à d'autres pays du monde, Célia Renson?
Non, je le disais tout à l'heure, on est en avance.
Ah.
Parce qu'aujourd'hui, on a un terrain favorable, un terrain de jeu qui nous pousse. Comme je disais, on a quand même le pouvoir législatif qui est très proactif et qui nous soutient. On a un parc de magasins qui aujourd'hui est bien équipé. En Allemagne, ils commencent seulement à équiper les magasins bio de rayon vrac, ce que nous, on a depuis très longtemps. Et on a aussi un certain nombre d'innovations et puis l'arrivée des grandes marques qui aujourd'hui se bousculent pas mal au portillon. Donc on a un bel avenir devant nous.
Donc beaucoup de perspectives pour le vrac. Merci à tous les trois d'avoir apporté votre éclairage à ce débat. Merci aussi à nos invités par téléphone. On a appris beaucoup de choses. C'est vrai que ça m'a donné envie de m'y mettre encore davantage au vrac. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Dans le Club des idées, on va maintenant plonger comme chaque soir dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité. Ça s'appelle Le Jour Où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Bien ce week-end.
Europe 1.
Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Alors, il y a 50 ans, apparaissaient à la télévision de drôles d'oiseaux hauts sur pattes et colorés, les Shadoks.
Oui, vous l'avez sans doute encore dans l'oreille, les Shadoks, c'était ça. Voilà le générique et la voix reconnaissable entre toutes du comédien Claude Pieplu.
C'était il y a très 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 longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Gibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok.
Et ce sont les Shadok qui ont permis à Claude Pieplu d'asseoir sa notoriété.
Et c'est donc le 29 avril 1968 que débarque cet ovni télévisuel.
Oui, hein, les Français sont bercés à des programmes comme Bonne nuit les petits ou Le manège enchanté. Et voilà qu'on leur balance chaque soir, après le journal télévisé, ces personnages dessinés en deux dimensions, donc sans relief et un peu absurdes, imaginés par l'ancien publicitaire Jacques Rouxel. Des oiseaux au corps rond avec de longues pattes, une mise en couleur très léché, avec des encres de couleurs vives qui ressemblent par certains traits à la peinture surréaliste, par exemple aux toiles de Miro. Leur première activité au Shadok, c'est de pomper, on s'en souvient. Hein. Ils ne s'expriment qu'avec quatre syllabes, vous en souvenez peut-être, ga, bu, zo, me. Et leur ambition, eh bien, quitter leur planète pour la Terre, grâce à des vaisseaux toujours invraisemblables, mais qui ne fonctionnent jamais. La série a été écrite pendant la période de conquête spatiale. En face, il y a un autre peuple, les Gibis. Alors G-I-B-I-S, c'est une allusion aux initiales de la Grande-Bretagne qui, eux, évidemment, réussissent beaucoup mieux tout ce qu'ils entreprennent.
Ah oui, donc c'est une sorte de BD animée à une heure de grande écoute. C'était quoi la vocation de ce programme ?
Eh bien, de réfléchir, de prendre du recul sur les questions de société de l'époque. On est à la fin des années 60, mai 68 est probablement déjà en germe dans la société française. Le comédien Claude Pieplu livrait sa propre analyse en 2004, donc longtemps après l'arrêt du programme, au micro Europe 1 de Brigitte Béjean.
Avec ce divertissement, des tas de réflexions venaient à l'esprit et on pouvait parler de philosophie, de réflexion, d'analyse de la condition humaine. On pouvait aller jusque-là, oui. Il ne se passe pas de jour sans que j'ai un témoignage sur ces Shadok. Des gens qui, à l'époque, étaient jeunes et qui ne manquaient pas un seul épisode des Shadok. Ils ont été bercés par les Shadok et peut-être même éduqués par les Shadok.
Et ce qui est fou, c'est de se dire que les Shadok ont été retoqués à plusieurs reprises par les dirigeants de l'ORTF, jusqu'à ce qu'un certain Émile Biasini décide de donner sa chance à ce programme court devenu culte, notamment grâce à ses concepts loufoques, comme vous vous souvenez peut-être le tiercé à un seul cheval, le permis de ne pas conduire. Ouais. Les Shadok ont aussi inventé des phrases qui sont passées dans le langage courant, comme « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» ou alors, pas mal non plus, « quand on ne sait pas où l'on va, il faut y aller et le plus vite possible ».
Mais Virginie, les Shadok ont divisé les Français à l'époque.
Hein. Oui, les réactions sont extrêmes. L'ORTF croule sous le courrier de protestation ou d'admiration de fans absolus. Il y a même en février 1969, après l'épisode du jour, une émission consacrée à ce courrier des Shadok où l'on voit à l'écran le comédien Jean-Yann ouvrir les lettres de téléspectateurs et les commenter avec un brin de moquerie.
Cette émission stupide passe à une heure où l'on est obligé de la suivre. Obligé. Pas échapper à ça, les Shadok, les trains. Elle oblige adultes et enfants à la suivre alors qu'elle ne s'adresse à aucun public. Les gens se voilent la face. Passez-nous donc à la place un interlude sur l'un de nos magnifiques paysages de France qui ne manque pas en Bretagne, si la Bretagne acquiert son indépendance, en Auvergne, en Normandie.
Il y avait 52 épisodes des Shadok au départ, imaginés par Jacques Rouxel. Finalement, deux autres saisons seront diffusées en 1970 et 74-75. La dernière étape de leur histoire, c'est une renaissance, une quatrième saison diffusée sur Canal+ en 2000, intitulée « Les Shadok et le Big Blanc », toujours écrite avec la voix de Claude Pieplu et la musique de Robert Cohen-Solal. Voilà, toujours la plume et l'œil de leur créateur Jacques Rouxel, décédé en 2004, qui tenait à ce que ces oiseaux à longues pattes soient dessinés en deux dimensions. Et quand des petites poupées à l'effigie des Shadok sont sorties, ça m'a fendu le cœur, a-t-il avoué dans une interview télévisée, parce qu'avec du relief, eh bien, ça ressemblait trop à la vraie vie, ça n'était plus le monde des Shadok.
Ce n'est qu'en pompant que vous arriverez à quelque chose, et même si vous n'y arrivez pas, eh bien, ça ne vous aura pas fait de mal.
Eh bien, merci beaucoup Virginie Salmen, ça nous a rappelé quelques souvenirs, tout ça. Dans un instant, le rappel de l'actu avec Julien Pierce, et puis place à musique et Émilie Mazoyer qui reçoit un invité exceptionnel ce soir, Noël Gallagher. Je vous retrouve demain dès 18h. D'ici là, on écoute Le Monde Changer, bien sûr.